coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto. Zoulet, peut-être.
Je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoulet.
Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché.
Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, le retour du coin Cocorico. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas fait d'émission, il était temps qu'on reprenne. Donc, pour ma part, c'est Benjamin et je suis comme d'habitude avec Charles. Bonsoir Charles.
Salut Ben, bonsoir à tous.
Alors, pour ce coin Cocorico, vu que ça fait quand même quelques mois qu'on ne l'a pas fait, on a réfléchi et vu qu'on est à quelques semaines du Tour de France, on va surtout parler, enfin, on va éviter de parler des grands leaders du skisme français comme Alaphilippe, Démare, Pinot ou Bardet. Bon, peut-être on les évoquera à un moment ou un autre, mais puisqu'on fera probablement une émission pour détailler les Français du Tour de France. Donc, on va surtout se concentrer sur ce qui s'est passé ces derniers temps et qu'on a réfléchi, qui, pour notre part, on pensait que ça serait intéressant d'en parler. Et pour commencer, pour rendre hommage à cette belle journée qu'on a eue aujourd'hui avec le soleil en fin de retour, on a peut-être fini l'hiver, ça y est, à mi-juin. On va parler de la Cofidis qui est une équipe qui a eu un peu de mal cette année. Et Charles, une équipe qui, la semaine dernière, a vraiment fait une grosse semaine, je pense notamment avec le Tour du Luxembourg et les victoires de Christophe Laporte et de Errada, avec un Julien Simon également très fort. Alors, la question, c'est est-ce qu'une semaine comme ça, où tout marche, ça peut gommer tous les problèmes qu'il y a eu depuis le début de l'année?
Gommer les problèmes qu'il y a depuis le début de l'année, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'au moins ça va relancer une dynamique positive chez Cofidis. C'était très compliqué, et puis on voyait que sur le forum, les supporters de l'équipe étaient un peu fâchés, et je pense que ces 5 victoires avec le général, si je ne me trompe pas, vont faire le plus grand bien à l'équipe, et surtout à Cédric Vasseur, qui commençait à être pas mal critiqué par les supporters de l'équipe, et je pense que ça va lancer les choses dans une... J'augmente ma sonorité, pardon, je vais augmenter un petit peu le son. Et je pense que oui, ça va remettre les choses dans le bon ordre, pardon, et relancer Cofidis sur les bons rails, enfin j'espère.
Alors justement, en parlant de la Cofidis, parlons de leur leader, au moins pour le sprint, Christophe Laporte. C'est un coureur qui avait très bien commencé la saison en faisant une super performance à l'étoile de Bessèges qu'il avait remporté. Et puis il a eu du mal, il a enchaîné les maladies, il a enchaîné les problèmes physiques, il n'avait plus regagné. Là il revient et également ça semble permettre de totalement définir, même je pense qu'on sera d'accord, on n'avait pas trop de doutes, quel est le sprinter qui va aller sur le Tour de France.
Ouais, bah, juste avant, redites-moi si jamais mon son est encore faible sur le chat ou si c'est un peu mieux. Mais ouais, pour revenir sur Christophe Laporte, je pense que avec je perds mes mots, du coup cette histoire de son m'a perturbé. Mais je pense qu'avec la méforme de Nasser Bouhanni, ouais, Christophe Laporte a toute sa place sur le Tour de France et que malheureusement on verra pas le Vosgien encore cette année sur le Tour et que ensuite c'est mieux encore pour le son. Ouais, je vais encore monter.
Allez, fais péter les watts, Charles.
Je fais péter les watts, ouais.
Ouais, vas-y. La fusée véloclub.net.
La fusée véloclub, ouais. J'espère que je ne vais pas subir un contrôle antidopage.
On va contrôler le micro également.
Si on frappe à ma porte, c'est les commissaires.
Alors, t'as Antoine qui demande, est-ce que Hofstetter, on peut le voir sur un grand tour?
Je ne sais pas. Peut-être sur la Vuelta.
Et moi, je me demandais sur Hofstetter s'il n'y avait pas de possibilité de le voir même carrément sur le Tour de France en tant que poisson pilote de Christophe Laporte. Puisque, par exemple, Geoffrey Soup a abandonné en même temps que Nasser Bouhanni sur le Dauphiné. Donc, il ne semble pas être dans une grande forme. Mais pourquoi pas dans un sens
peut, ouais. Je crois qu'il était dans la présélection, mais... Après, il faut voir, parce que là, il est en ce moment sur le Tour de Hongrie. Bon,
Il enchaîne beaucoup, hein.
il avait couru les boucles de la Mayenne, et puis là, en Hongrie, hier, il s'est fait battre par Belletti, et aujourd'hui, j'ai pas vu la fin, mais de ce que
Il a
j'ai vu, il a
pété dans la
sauté très
dernière
tôt
ascension.
dans la dernière ascension. Donc, est-ce qu'il va pas être un peu cramé au départ du tour? Je ne sais pas, franchement. Puis, on ne connaît pas ses facultés de récupération, pardon. Donc, s'il doit faire un grand tour, moi, je miserais plus sur la Volta, je pense.
Mais peut-être la Vuelta, ça sera le grand tour où Nasser Bouhanni sera. Je sais pas. À voir, en fait, tout simplement, comment va finir le mois de juin à Hofstetter. Ça m'étonnerait qu'on ait la sélection de la Cofidis avant les championnats de France. Parce qu'ils ont pas mal de coureurs qui sont en ballottage. Je pense
Ouais, je pense qu'ils vont les
à
maintenir sous
Anthony Pérez, par
pression.
exemple, qui est un peu décevant.
Alors, est-ce que Ryan est meilleur que Nasser? Bon, on ne sait pas parce qu'il court pas. C'est pas évident de juger de son niveau. C'est une bonne question, mais malheureusement, on ne peut pas y répondre.
Ça dépend à quoi
Ça
également.
répondra à quoi, hein?
Je me rappelle qu'il y avait une vidéo qui traînait
En boxe, peut-être.
sur Internet il y a 3-4 ans. On voyait les capacités de jongleur de Ryan Bouhanni avec un ballon de foot. Mais ça ne permet pas de gagner des étapes, ça.
Malheureusement, non.
Alors, non. Sinon, la Sky Ineos, s'en serait emparée. Parlons d'une autre équipe, Charles, qui connaît la pluie et le beau temps, on va dire, une équipe dont on parle si souvent depuis maintenant un an et demi qu'elle existe. C'est la Vittel Concept, forcément. B&B Hotel.
BNB Hotel, n'oublie pas le BNB Hotel, les
Oui,
gens, c'est très important.
faut parler des sponsors pour qu'ils restent.
Alors, pour étonner les gens, moi je vais dire du bien de Vital Concept pour une fois. Parce que, enfin, pour une fois d'ailleurs, l'objectif c'est pas du tout de dire de mal de Vital Concept, y a pas, enfin, on s'en fout un peu.
D'ailleurs, attends, juste avant que tu dises du bien, nous sommes à la troisième émission du Coin Cocorico. Nous avons fait, je crois, 3 mois depuis la dernière émission. Marc Fournier n'a pas terminé de course depuis la dernière émission. Vas-y, excuse-moi.
Alors, tu me lances sur Marc Fournier. On va penser que je le déteste. Je m'excuse auprès de lui si jamais il nous écoute ou si jamais il y a des gens très bien intentionnés qui lui rapportent nos propos. C'est juste du second degré. Hein. Nous, qui finissent ses courses ou
Ben,
pas. Enfin, c'est juste rigolo
alors,
en fait. Enfin, il n'y a pas
oui,
d'autre
c'est
chose,
rigolo,
quoi.
mais en même temps, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas les problèmes de santé qu'il peut avoir, puisqu'il y avait une interview de lui qui était parue où il disait qu'il en avait marre des problèmes de santé. Mais
Oui.
si on prend de base les résultats, on se dit quand même, désolé d'être méchant, mais qu'il prend la place de quelqu'un dans le monde
Ah bah bien
professionnel.
sûr, mais avant que les gens s'offusquent, nous on rigole juste, hein, on prend ça
Voilà.
à la légère. Donc,
Voilà, oui, on n'a pas d'intérêt. Donc, tu voulais dire
enfin
du
bref,
bien
oui.
sur Vital.
Ouais, parce que en fait, moi il y a un coureur qui me fait vraiment plaisir. Bah, depuis le début de l'année chez Vital Concept, c'est Lorenzo Manzin. Il a gagné, je sais plus, ses 3-4 victoires. Benjamin, tu connais les stats mieux que moi. Et aujourd'hui, je l'ai encore trouvé bon sur un sprint difficile où il va chercher une belle quatrième place. Et franchement, encore une fois, chapeau. Je crois que j'avais déjà dit du bien d'ailleurs de Lorenzo Manzin à la dernière émission. Et là, je trouve qu'il va peut-être sauver au final le Dauphiné de Vital Concept. Et ça valide un peu l'idée de prendre Manzin à la place de Cocard, en fait, quoi. Finalement, le fait qu'il réussisse à faire un top 5 sur une épreuve du World Tour. D'ailleurs, il faudra regarder, je sais pas si quelqu'un a ces infos-là sur le chat, dites-nous, au cas où. Est-ce que Vital Concept a déjà fait un podium sur une course World Tour ou est-ce que c'est la meilleure perf de l'équipe depuis un an et demi à ce niveau-là? J'avoue que je sais pas du tout.
Lorenzo Manzin, c'est 4 victoires d'étape cette année, donc c'est 2 victoires sur la Tropicale Amissa Bongo, une victoire sur le Grand Prix de la Somme et le classement général du Tour de Bretagne. Alors certes, les deux dernières, ce sont des points de UCI, mais ça reste quand même dans les points de UCI françaises parmi les plus relevés. Et quand on voit qu'il fait un top 5 sur le Dauphiné, qui est donc un World Tour, même s'il n'y a pas tous les sprinteurs, mais d'ailleurs, on pourrait dire que on ne sait pas trop comment ce serait se passé ce sprint parce que on voit que c'est Van Aert qui gagne. C'était pas un sprint facile. Non, c'est très, très bien. Il s'est arraché. Je faisais la comparaison sur Twitter avec André Greipel qui chez Arkéa ne fait rien, tout simplement. C'est bien Manzin. Ça permet à Vital de montrer qu'ils ont bien été sur la course. Et puis sur cette étape, Vittel Concept a fait ce qu'on leur a reproché de ne pas faire sur Paris-Nice. C'est-à-dire qu'ils se sont montrés puisque Johan Bago était dans l'échappée qui animait toute la journée.
Ouais,
Il
puis
y
on
a eu
a vu quand
Quentin,
t'as pas chez la veille. Ouais.
voilà, tout à fait, l'avant-veille, puisque
L'avant-veille,
la veille
pardon,
c'était
c'était le chrono.
le coin de la montre. Donc, ben c'est ce qu'on leur demande, ils sont invités. Ils ont malheureusement leur leader Pierre Roland qui n'est pas en forme, Arthur Vichot
bah après on sait pas, peut-être qu'il a perdu du temps aussi dans le but de pouvoir s'échapper ce week-end quoi.
Ouais, mais alors ça j'ai du mal à y croire parce que vu qu'il aurait pris trop 4 minutes sur le chrono, Pierre Roland en contre-la-montre c'est en dessous de Guillaume Martin, donc il n'y avait pas besoin de se retrouver à 40 minutes. Donc ça m'étonnerait qu'on le voie là-bas, mais bon, je l'espère pour lui, soit en passant.
C'est peut-être dans l'optique d'une autre course plus tard, on ne sait pas.
Ah oui, il se fait oublier, comme ça les gens disent qu'il est nul, et en fait...
Ça peut être une belle tactique.
Alors, Antoine qui nous dit « Le meilleur classement de Vital en World Tour était la 7e place à la panne devant Genetchen. »
Ah, merci Antoine. Ouais. Donc du coup, la place de Lorenzo Monzon serait la meilleure place de l'équipe alors, à ce niveau-là.
Et également sur le front autre, les boucles de la Mayenne. Brian Coquart a remporté une victoire d'étape en costaud. C'est une belle victoire, Charles, et qui a de l'importance, je pense, notamment au niveau des sponsors, parce que les boucles de la Mayenne, certes, c'est qu'une point 1 UCI, mais elle a une couverture plus importante.
Assez importante. Ouais.
Elle est plus importante médiatiquement que le Dauphiné en France, parce que l'équipe a une couverture bien plus importante.
Ouais, puis j'imagine que c'est une victoire qui fait du bien à Coquart, parce que enfin, je pense que tu te rappelles comme moi, il y a deux fois, si je ne me trompe pas, où il s'est fait taper en pensant avoir gagné, tu sais, genre il lève les bras ou je ne sais plus quoi, et
ouais.
Il s'est fait taper deux fois. Et là, pour une fois, en fait, c'est Kevin Le Quinf, je crois qu'on dit, Le Quinf, c'est ça?
Oui.
Qui, là, était un peu trop sûr de ses forces, et Brian Coquart le passe sur la ligne, donc j'imagine que ça lui fait du bien pour une fois, que ça soit lui qui passe... Le gars est pas l'inverse. Comme.
Et là, je vais lancer... alors, j'en ai parlé dimanche, mais... Quel gâchis, Brian Coquart, qui... Alors, je ne sais plus la date exacte, pardon, je crois que c'était il y a 2-3 ans, peut-être 4, qui avait expliqué, alors qu'il marchait vraiment bien, qu'avec son entraîneur, ils avaient décidé de ne faire un entraînement qu'axé sprint. Pour viser des victoires, ben, on pense forcément à ce raté au Tour de France qu'il échoue à quelques centimètres avec Marcel Kittel, si je ne me trompe pas. Et là, alors il y a Feu qui dit sur le chat un gâchis, mais mauvais choix de carrière. C'est même pas le choix d'équipe, là, je parle, c'est le choix d'entraînement. Brian Coquart s'est sabordé sur ses capacités. Et cette année où il reprend un entraînement comme avant, force est de constater que malgré le fait qu'il partage son temps avec la piste et la route, on le revoit sur des sprints, mais également sur des étapes plus corsées, où on ne le voyait plus, parce que Charles, au-delà de sa victoire d'étape, il a été très offensif sur ces boucles de la Mayenne.
Il a été offensif, ouais. Il a fait plaisir à voir, en fait, ce qu'on attendait plus ou moins de lui. Il a essayé de provoquer la décision en voulant remporter le général, et il finit avec une belle victoire d'étape, mais... Pour ses choix de carrière, Feu nous dit « Ouais, mauvais choix de carrière, manque d'ambition en allant chez Vital Concept. » Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il malheureusement, il a perdu deux ans en allant en Conti Pro. Hein. Pas forcément que Vital Concept, d'ailleurs, mais juste en allant en Conti Pro, un peu à la manière de Warren Barguil. Je ne suis pas sûr que ses choix de carrière soient les plus opportuns au final. Non. Surtout, bon, après, on ne sait pas tout, mais si on ne se trompe pas, il y avait quand même des offres en provenance du World Tour. Donc,
je pense que c'est clair. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas le rôle qu'ils espéraient. Enfin, pour Coquart, peut-être pas le rôle qu'ils espéraient. Mais pour Barguil, je pense qu'il pouvait aller plus ou moins dans n'importe quelle équipe et il aurait un rôle de leader avec ce qu'il a fait. Antoine qui nous dit, Tom, Coquart a fait des top 5 sur Paris-Nice cette année. C'est totalement vrai, on avait oublié ça.
Mais d'ailleurs, Max nous dit que Vital a sûrement survendu le truc. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'on a vendu un projet en fait qui est beaucoup moins reluisant que ce qu'il y paraissait au début. Je me rappelle, après c'est pas le sujet donc je vais aller vite, mais je me rappelle l'interview où Jérôme Pinault dit Thibaut Pinault pourquoi pas,
je me rappelle le Trentin qui était annoncé.
Faut arrêter de vendre du rêve. Je pense qu'à un moment un de nos commissaires nous disait que certains nouveaux managers pensent que le métier de manager c'est facile et que comme ils sont les plus intelligents du monde ils vont réussir, et au final on se rend compte que c'est un vrai boulot et que c'est pas si facile que ça, il faut vraiment bosser et faire preuve d'humilité parfois, je pense.
Maintenant, j'espère quand même que ce soit Brian Coquart ou l'équipe vont continuer en progressant et vont surtout continuer parce que ça serait dommage que du fait d'une nouvelle non-sélection au Tour de France, l'équipe s'arrête, ça mettrait beaucoup de monde au chômage. Donc voilà. Et en parlant d'équipes qui ne font pas le Tour de France, y a presque une idéologie, Charles, qui se crée sur les sur notre forum, mais également ici et là sur Internet. C'est la volonté de certains supporters, notamment des baroudeurs, de voir la Delco Marseille sur le Tour de France. C'est notamment avec Julien Alfares qui, à 34 ans, retrouve une seconde jeunesse.
Ouais. Après, pourquoi pas voir Delco sur le Tour. Après, on ne peut pas dire tout ce qu'on pense, mais moi, j'ai encore en tête Rémy Di Gregorio.
Il y a des recrues.
Moi, je me rappelle de Dani Dias, par exemple. Je me rappelle de Benjamin Dibol, qui était stagiaire à un moment.
Des recrutements où on ne regarde pas trop la réputation des coureurs, tu veux dire.
Tu vois qu'il y a une signature d'un coureur cette année où pas mal de coureurs amateurs se sont un peu lâchés sur les réseaux sociaux et des performances un peu compliquées. Donc, après, on ne peut rien dire parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans la diffamation. Mais puis on... Je sais pas si
on va juste dire, pour ceux qui aiment fouiller les archives, vous allez sur le compte Facebook de Direct Vélo. Et vous redescendez l'an dernier quand il y a l'annonce de, ils annoncent les signatures des coureurs qui passent pro. Et vous verrez à un moment, il y en a une d'un coureur qui passe pro chez Delco. Enfin, l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Donc ça fait beaucoup de recherches. Hein. Mais vous verrez que les commentaires valent la recherche. On va juste dire ça. Et on va repartir sur autre chose, puisque c'est une autre équipe qu'on a pas mal critiqué cette année, notamment par le fait qu'ils n'ont pas renouvelé le contrat de Jérémy Cabot. On les a un peu critiqués également sur le recrutement, c'est les Natura Forever Roubaix Lille Métropole, si je ne me trompe pas dans le nom d'équipe. Et avec cette victoire de Thibaut Ferras dans les boucles de la Mayenne, c'est, je pense, leur plus beau succès. Et alors Charles, Thibaut Ferras, c'est un coureur qui semble rouler bien sur le plat, qui semble bien passer les bosses. La question, c'est toi, tu le vois, cette victoire, c'est pour toi un one shot, où il y a un véritable potentiel pour ce coureur qui revient des rangs amateurs.
Je pense que c'est un one shot, malheureusement, je vais dire. Parce que, après, Thibaut Ferras, c'est un très beau coureur et vraiment félicitations parce qu'il a obtenu une super victoire et il l'a plus que mérité. Donc, faut surtout pas minimiser ça. Mais je dirais que c'est un one shot pour une raison assez simple. En fait, c'est que Thibaut Ferras, c'est pas un pur sprinter, c'est pas un pur grimpeur et c'est pas un vrai rouleur. Donc à partir de là, comme 50 000 coureurs au sein du peloton pro, il a besoin de circonstances favorables pour gagner, donc renouveler ça va forcément être compliqué. Mais encore une fois, il ne faut surtout pas minimiser sa performance, mais pour le renouveler, il faudrait quand même des conditions qui sont assez particulières, disons. Enfin, c'est...
Je ne sais pas ce que t'en penses, Ben. Mais... Oui, c'est le genre de coureur où on dit... Il est pas mal partout, mais il n'est bon nulle part. Encore une fois, on critique pas. Je veux dire par là que je vais prendre Kevin Le Cunf, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, qui s'est fait sauter par Brian Coquart. Lui, c'est un peu. On sait qu'il peut gagner des courses de puncher. Sur les Coupes de France, il peut même lutter avec les World Tour, ce qu'on n'a pas l'impression que peut faire Thibaut Ferras, en tout cas pour le moment, parce qu'on ne connaît pas tant ce coureur non plus. Par contre, Thibaut Ferras, moi, je le vois plus peut-être recruté par une Continental Pro et être un bon équipier dans une Continental Pro. Mais je le vois, pour le moment en tout cas, pas forcément en World Tour ni en leader.
Mais c'est pour ce que tu dis, c'est un point positif parce que ça va forcément lui ouvrir des portes pour la saison prochaine, quoi.
Ah ben tu gagnes 1.1.
C'est génial, enfin, c'est une mise en lumière et c'est un mec qui a l'air assez sympa. On le voyait sur le plateau en plus après l'arrivée. Enfin bravo quoi. Encore une fois, je veux surtout pas qu'on se méprenne. Enfin on essaie de minimiser, c'est juste que.
Ah non, tout à fait. On parle vraiment dans le futur, et on ne demande qu'à se tromper. Hein. S'il va remporter par exemple une course comme le Poitou-Charentes. On sera très content pour lui. Et ça met en lumière également son équipe qui est probablement la continentale française, et quand je dis l'équipe française, même UCI, qui est le moins mise en avant de toutes. Parce qu'ils ne sortent pas de jeunes, ou très peu, et on les voit peu faire des résultats, notamment à la télé.
Mais c'est d'autant plus dommage de ne pas avoir prolongé Cabot, hein, parce que ça aurait quand même fait une équipe Conti qui aurait eu de la gueule cette année, quoi, quand on voit ses performances.
Avec Antomarchi qui est toujours fort pour aider les coéquipiers quand c'est pas lui qui fait le numéro. Antomarchi, par exemple, on sait qu'il va être devant au championnat de France, comme chaque année.
C'est aussi la belle satisfaction de ces bouts de la Mayenne, c'est que bah, l'équipe Roubaix, Lille Métropole Natura Forever a tenu la baraque, quoi. Tu l'as dit, on a vu Antomarchi se dépouiller, on a vu aussi Pierre Barbier faire du travail. Enfin, les mecs ont tenu le choc face à des équipes World Tour et Conti Pro, et ça, c'est aussi à saluer, je trouve.
Tout à fait. Alors, on est descendu dans les continentales. Maintenant, on va remonter vers le World Tour. Donc, on va tout d'abord s'arrêter sur une équipe continentale pro. C'est la Total Direct Energy. Alors, justement, je voulais parler de trois coureurs. Dans le point positif, c'est Anthony Turgis. Enfin, dans le bon point, on va éviter positif. Quand on parle de vélo, c'est jamais très bon. Le point peut-être décevant, c'est Liam Calmejane. Et après, on parlera de Thomas Bouda qui fait une saison de place d'honneur. Donc, commençons par Anthony Turgis. Donc, je voulais en parler pardon, Anthony Turgis, je sais pas si il s'est révélé sur les Flandriennes cette année, mais il continue depuis à faire de bonnes performances puisqu'il vient d'enchaîner deux quatrièmes places sur les 4 jours de Dunkerque, sur le Tour du Luxembourg et une cinquième sur le circuit de Wallonie. Alors, c'est certes de l'Europe Tour, c'est pas du World Tour, mais Charles, voilà un coureur qui fait sa place, dont on n'a pas forcément un profil similaire dans le cyclisme français.
Ouais, c'est un très bon coureur qui stagnait un peu chez Cofidis et je trouve qu'il a bien fait de vouloir changer un peu d'air pour se relancer, d'autant plus qu'il est encore jeune, si je ne me trompe pas, il a que 25 ans et c'est comme tu dis, peut-être un profil, je sais pas, si j'ose la comparaison, à Tony Galopin, tu vois, capable de briller sur plusieurs terrains, enfin,
Peut-être moins grimpeur,
possible, ouais.
quoique je me souviens qu'il avait attaqué l'an dernier sur le Tour de France, sur l'étape sprint, entre guillemets, du col du Porté, celui où gagne Quintana, c'était bien le Porté, on est d'accord, je me rappelle,
Je sais plus, je me rappelle jamais de.
j'ai un doute sur le nom du col, et il était sorti dans le premier col avec d'autres coureurs, donc il n'est pas non plus trop dégueulasse quand ça grimpe. Katmapé qui dit Turgis, il est loin autour de Belgique où on pouvait espérer de lui une bonne place au général. Ouais,
C'est
peut-être
vrai, ouais.
après, peut-être là, il va reperdre un peu en forme pour remonter au championnat de France parce que je pense qu'il sera sur l'équipe du Tour de France, je sais pas comment ça pourrait être autrement. Mais surtout, comme tu dis, Charles, le fait de quitter la Cofidis, au-delà de l'ambiance, ce qu'il espérait également, peut-être, c'est avoir plus de liberté. Et si pas de liberté, au moins rouler pour un leader top mondial, ce qu'il avait en la personne de Niki Terpstra.
Oui, clairement. J'imagine qu'il a aussi progressé et qu'il va aussi progresser au contact de Niki Terpstra sur les Flandriennes. Quand on a un mec comme ça à ses côtés, c'est quand même un énorme plus. Et on voit que c'est son meilleur terrain parce qu'il fait deux à travers les Flandres. Même sur Paris-Roubaix, il n'était pas dégueu. Il termine dans le top 20. Donc je pense qu'il a encore une grosse marge de progression, Anthony Turgis. On va le revoir forcément à l'avant.
Ouais, c'est un coureur en plus qui lors de ses premières années, n'a pas pu montrer tout ce qu'il savait faire, puisqu'il a souvent été victime de chutes. Cette année, il touche du bois, donc on peut encore en entendre parler. C'est un coureur qu'on pourrait voir à son avantage, par exemple, sur une épreuve comme le Grand Prix de Ploué, pour
Ouais,
aller au World
voilà, les
Tour.
Canadiennes aussi, enfin des courses comme ça.
C'est très bien donc pour l'équipe d'avoir un coureur qui performe autant avec la blessure de Terpstra, mais également Liam Calmejane qui arrive pas à... Alors, il est présent sur les Coupes de France, il gagne en Ardèche, mais ce coureur qui gagne dès sa première année pro une étape de montagne sur la Vuelta, qui gagne l'année suivante cette étape sur le Tour de France devant Gesink, on se rappelle de ses crampes à la station des Rousses. Il passe pas ce palier, il arrive pas à devenir un coureur qui compte dans le World Tour.
Bah, c'est triste à dire un peu, mais je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est depuis sa victoire sur le Tour de France qu'il stagne. Enfin, difficile de dire qu'il régresse parce que c'est pas forcément le cas, mais comme tu dis, il n'arrive pas à passer ce palier. Il a remporté une belle victoire en début d'année, c'était Drôme ou Ardèche. Ardèche.
Ardèche, la première.
Mais depuis, bah, plus rien en fait. Enfin, plus rien, c'est un bien grand mot, hein, parce qu'il fait 5 du Trobro-Léon, il y a des places d'honneur à Paris-Camembert sur le Tour du Finistère, etc. Mais on avait l'habitude de le voir. Il fait une... Tu te rappelles comme moi de sa première année où il gagne la Coppi Bartali, je crois. Faut que je me souvienne, il faut que je remonte un peu les statistiques. Il gagne aussi le circuit de la Sarthe. Enfin, il fait une super année. Il avait aussi gagné Bessèges et il enchaîne sur une victoire sur une étape du Tour de France que tu as citée. Donc vraiment, une saison très très costaud. Et derrière,
Il n'a pas confirmé.
il n'a pas confirmé. Je crois qu'il est en fin de contrat cette année. Bah, je me demande quel élan il va pouvoir donner à sa carrière, en fait, parce qu'on se rend compte que pour les classements généraux, je pense que c'est pas possible. Un peu
Ouais.
comme un Julien Alaphilippe, je pense qu'il sera trop limité en montagne pour.
Bah, un peu comme Vauclair, je vais plus dire. Hormis circonstances, pardon, totalement favorables. Mais là. Je pense qu'il lui faut un déclic, quoi. Il faudrait vraiment qu'il en gagne une belle, par exemple, une étape sur le Tour de Suisse, ce qui peut être possible, pourrait bien le relancer, mais comme tu dis, pour moi, il semble être un peu dans une spirale négative.
Mais peut-être quitter Direct Energy, quitter le cocon un peu pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de se relancer, de. Je
Peut-être
sais
dans
pas.
une équipe
Enfin.
étrangère, tu vois. Je le verrais, par exemple, dans une équipe comme la Trek.
Tenter sa chance à l'étranger, pourquoi pas.
Ouais,
Après, il sait mieux que nous.
peut-être.
Hein.
Hein. Oui, après, si ça lui convient, c'est pas non plus. On parle bien d'un palier non franchi, on ne parle pas d'un coureur qui ne fait plus de résultats.
Oui,
C'est
parce qu'il a quand
pas
même remporté
Greipel
des.
ou Cavendish,
Oui,
quoi. Hein,
voilà quoi.
À voir. Et donc, ensuite, le troisième coureur dont je voulais parler, c'est Thomas Bouda. Thomas Bouda, ben, c'est l'éternel espoir, un peu, on va dire, qu'on pouvait attendre très, 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 très fort. Qui ne sera peut-être jamais très fort, mais qui semble vraiment s'affirmer par contre comme un très bon coureur d'Europe Tour.
Ouais, parce que Thomas Bouda, il est souvent moqué ou critiqué, notamment par les fans de Direct Energy, mais au final, il en claque une chaque saison, quoi. L'année dernière, c'était sur les Pays de Loire, cette année, c'est le circuit de Wallonie, pardon. Il y a, comme tu l'as dit, pas mal de places d'honneur, notamment quatrième de la Roue Tourangelle. Donc, comme tu dis, un bon coureur d'Europe Tour qui sait se transformer en équipier pour ses leaders quand il y a besoin et qui va te claquer bah, une ou deux victoires par an. Ce qui n'est pas négligeable parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de coureurs au final qui gagnent dans une équipe tous les ans, quand.
Tout à fait. Et justement, je voulais parler de ça parce que on a souvent tendance, notamment quand on est supporter, quand on est voire chauvin, hein, je parle ici pour les Français, mais on peut parler pour les Italiens que certains aimeraient voir tout exploser, mais ce n'est pas forcément le cas, ou autres nations. Et on ne peut pas avoir que des super champions, un bon coureur of tour. C'est bien dans une équipe parce que ça rapporte des points. On ne peut pas espérer avoir que des super champions bon, ici on parle du sprint. On ne peut pas avoir que des démarres qui vont gagner Milan-San Remo ou Boigny qui a gagné plusieurs étapes sur les grands tours. Non, il y a également ces coureurs qui peuvent, sur un jour de grâce, comme par exemple Jean-Patrick Nazan, remporter une étape sur le Tour de France, mais qui, tout au long de la saison, vont apporter des points UCI, et vont faire vivre l'équipe et vont permettre au leader de se reposer. Et je pense que Bouda s'inscrit dans cette lignée, Charles.
Mais c'est pas vraiment le débat du jour, mais pour moi, c'est un peu ce qui fait ces grosses nations. En fait, pour moi, il y a vraiment 4 ou 5 nations majeures, Belgique, France, Italie, Espagne et Pays-Bas. Enfin, Pays-Bas peut-être un peu moins, mais c'est cette densité en fait qui font qu'elles sont toujours en tête des classements, parce qu'il y a 3-4 champions, 4-5 champions, on ne sait pas, enfin, peu importe le nombre bah, pour chacune de ces nations, mais au final, il y a aussi toute une flopée de mecs. Tu vois, Max Sint van Dramé pour les Italiens qui sont capables d'aller gagner des courses, des Thomas Bouda, des Jonathan Hiver, etc., des Lilian Calmejean, et qui vont claquer une ou deux victoires par an et qui font au final, comme je disais, cette densité quoi, qui permet de troster souvent le haut des classements en Europe Tour et ailleurs.
Tout à fait. Je vais rebondir sur Antoine qui dit justement ils ont de bons baroudeurs avec Cosnefroy et Goujard et ils ont fait un bon Giro comme ça. On parle d'H2R. On ne va pas parler de Lance Peters, on en a parlé lorsqu'on parlait du Giro. Mais je vais parler de ces deux coureurs, Charles. Ces deux coureurs qui marchent très bien. Cosnefroy qui se révèle vraiment cette année. Hein, lui qui a été champion du monde espoir. Cette année, plusieurs victoires avec le Grand Prix de Plumelec, Paris-Camembert. c'est certes des Coupes de France, mais en World Tour, il a existé en terminant 12e sur la Flèche Wallonne. Il est souvent équipier, donc qui dit équipier dit qu'on n'a pas forcément la possibilité de jouer sa carte personnelle. Et de l'autre côté, il y a Alexis Goujard qui est également à 3 victoires lui cette année, Bouc de l'Aune, où il a fait un numéro exceptionnel, et également les circuits de la Sarthe avec une victoire d'étape. Et justement, je vais te parler de ces deux coureurs, Charles, non pas pour dire ah, c'est bien, ils ont gagné la Coupe de France, tout ça, non, 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 on va parler par rapport à l'optique du Tour de France. Qui choisir entre les deux? Cosnefroy, qui semble être plus constant, d'ailleurs, qui vient de faire le stage en Espagne avec Romain Bardet et l'équipe du Tour, ou un Alexis Goujard, qui est bien plus inconstant, mais qui est capable d'exploits à la James Voigt, on va dire, à la Thomas de Gent, qui peut être sur une ou deux étapes un point monstrueux, mais qui peut après se retrouver dans le groupe Eto tous les jours. Tu choisirais qui entre les deux dans la section du Tour?
Moi, je pense
c'est compliqué comme question.
Cosnefroy est plus fort, mais je prendrai Alexis Goujard. En fait, pour une raison simple, c'est que je l'ai déjà dit plein de fois, hein, pour moi, le gros point faible d'AG2R la mondiale, c'est le chrono par équipe. Et Alexis Goujard, c'est une machine à rouler. Donc, à partir de là, je me dis que Romain Bardet en aura vraiment besoin pour ce contre-la-montre et que ce serait dommage de s'en passer, quoi.
Alors dites-nous également sur le chat si vous étiez directeur sportif d'AG2R pour la meilleure performance possible sur le Tour de France. Qui est-ce que vous prendriez entre les deux?
Et toi, tu prendrais qui, Ben, d'ailleurs?
Et je prendrais peut-être plus Cosnefroy, parce que je me dis que sur un Tour de France, il peut être plus souvent utile que Alexis Goujard. Et de par sa polyvalence, notamment, il peut être très fort en moyenne montagne, il peut permettre d'économiser certains équipiers comme Pierre Latour. Et encore, il faut voir si ce dernier sera bien sûr au Tour de Suisse, parce qu'il a eu quand même plusieurs grosses blessures. On va voir s'il fait le Tour. Ou un Alexandre Géniez, qui est quand même lui aussi assez inconstant, mais... ou un Mathias Franck. C'est vrai que Cosnefroy, je trouve, avec ses performances, qui mérite de faire le Tour de France. Après, il y a ce problème du contre-la-montre par équipe. Je ne sais absolument pas si Cosnefroy arrive à bien se mettre dans le dispositif AG2R sur le contre-la-montre par équipe, puisqu'on rappelle que certains coureurs sont moins forts sur le contre-la-montre individuel, mais arrivent à être très forts sur le contre-la-montre par équipe. Maintenant, vu que Sylvain Dillier va pas faire le Tour de France, je pense.
Ouais, comme le rappelle Katmapé sur voilà. Le chat, ouais, déjà il y aura Dillier en moins.
Peut-être qu'en effet, comme il dit, mettre Couvard à sa place pour avoir un bourrin, tout simplement, qui, si l'équipe va moins bien à un moment du contre-la-montre, se mettre sur un gros relais pour permettre à tout le monde un peu de souffler. Et de réorganiser la machine.
Puis tu vois, je trouve intéressante la réflexion d'Antoine sur le chat. Cosnefroy, doit avoir des libertés et ne pas être bloqué par Bardet. Je pense un peu la même chose. Enfin, Benoît Cosnefroy, dans un rôle d'équipier, c'est un peu dommage. Moi, j'aimerais bien le voir sur le tour, forcément, parce que c'est un immense talent. Mais j'aimerais bien le voir en baroudeur, en fait, être capable d'aller jouer la gagne dans une échappée. Et là, le voir cantonné à un rôle vraiment d'équipier auprès de Romain Bardet, parce que ça sera ça, hein, je pense, de toute façon. Je trouverais ça un peu dommage, quoi.
Mais après, peut-être qu'il aura certaines libertés. Par exemple, Pierre Latour, l'an dernier, arrive à faire second, si je ne me trompe pas, sur le mur de Bretagne. Le jour où Romain Bardet a un problème de vélo, là, que je m'étais énervé parce que je crois que c'était Villermoz qui ne l'avait pas du tout attendu, tout ça. Bon, en fait. Bref. Donc, et après, il y a des coureurs qui sont parfois là. Vu que maintenant, sur les grands tours, et notamment le Tour de France, les étapes de montagne, il y a entre 30 et 50 coureurs à l'avant. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est fou de dire ça, mais tu as toujours 2-3 coureurs, donc peut-être également pour le classement par équipe, c'est un classement que vise AG2R, je sais pas. Mais je comprends tout à fait les arguments sur Goujard, c'est vrai qu'il me paraît quand même assez indispensable, notamment si Bardet veut Chérel à ses côtés, puisqu'on sait que malheureusement, Michael Chérel est très fort en moyenne montagne et en haute montagne, mais alors en contre-la-montre, c'est une pipe.
Ah, du coup, ça ferait Chérel, Cosnefroy et Bardet sur le chrono par équipe. Ça fait quand même
à 8. Ah, ouais, ouais. Alors, tu mettrais dans l'équipe, ça serait Bardet, Naizen,
La Tour.
Non, Vuillermoz, je suis pas sûr qu'il fasse. Hein.
Galopin,
ouais.
Cosnefroy, Franck, Goujard, Franck. Mathias Franck, ouais.
Ouais,
Et
bon,
après.
on va voir. Après, ça va dépendre peut-être du championnat de France. Qui fait quoi parmi les deux?
Oui, voilà.
Ensuite, continuons notre débat. Là, on va parler non pas des gros leaders, comme j'ai dit tout à l'heure, mais de deux coureurs qui s'invitent à la table des grands. Je vais commencer par celui qu'on a vu pas mal sur ce Dauphiné déjà, c'est Guillaume Martin, qui était un temps second du classement général après sa deuxième place d'étape mardi. Non, lundi, pardon. Est-ce que Guillaume Martin, ça serait pas Charles cette année l'affirmation de nouveau leader français? On rappelle qu'il fait quand même une saison pleine, que ce soit sur le calendrier Europe Tour, mais également sur le calendrier World Tour. Je rappelle qu'il a quand même fait top 10 sur le Tour de Catalogne, pardon. Le Tour de Catalogne, on sait que c'est toujours une épreuve avec un énorme plateau. Il a gagné une superbe étape autour de Sicile. Là, au Dauphiné, alors on pourrait dire, ouais, c'est sur une échappée qui fait second, mais quand on voit comment l'échappée a résisté à la bagarre des favoris, il était vraiment très très fort. Alors, est-ce que tu le vois un cran en dessous ou qui commence vraiment à rentrer dans les supers du peloton français?
Ouais, j'ai l'impression qu'on le sent monter en puissance. Guillaume Martin, il fait vraiment une très belle saison. Tu l'as dit, il a été très bon au Tour de Sicile. Là, on a vu que sur le Dauphiné, il était très costaud sur l'étape de. C'était mardi, non, si je ne me trompe pas.
Lundi, puisque mardi
Lundi.
c'était la première étape de sprint,
Lundi, ouais,
c'était
mais.
lundi là, dans le brouillard.
Par contre, le chrono, qu'est-ce que c'est dur, quoi. Enfin, quand on voit la débauche de temps qui est consenti par Guillaume Martin. Moi, j'étais très étonné de voir qu'il n'avait pas de casse de contre-la-montre, par exemple. Enfin, dit qu'il est quand même sacrément
Ouais.
handicapé par ses capacités en chrono pour faire une vraie grosse perf sur une longue course par étape, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, est-ce qu'il faut aller dans une autre équipe pour pouvoir travailler un peu mieux cette discipline? Est-ce qu'il faut rester chez Wanty? Je sais pas. Moi, j'ai du mal à penser que l'avenir de Guillaume Martin puisse s'inscrire en Conti Pro vu le talent du garçon, quoi.
Alors Louis nous dit Guillaume Martin est un super grimpeur, mais il est trop limité en chrono sur le tour cette année. Il ferait mieux de viser des victoires d'étape et ou un maillot à poids. Mais je pense que justement, on va dire qu'il a la qualité de son défaut. C'est que Guillaume Martin, si vous analysez chacun de ses Tours de France jusqu'à maintenant, sachant qu'il a souvent été handicapé par des blessures, l'an dernier il était blessé sur le Tour de France, il rate le top 20, je crois qu'il fait 21e, mais il fait le Tour de France blessé. Suite à sa chute, je crois que c'est sur l'étape des pavés. Guillaume Martin, il prend. Mais. S'il perd des cachous dans le contre-la-montre, on le voit souvent à l'attaque dans les étapes de montagne. Je pense que c'est un des rares coureurs qui arrive à mêler les deux, tout simplement. Je pense qu'on le verra très souvent dans les grosses échappées dont on a parlé, dans les étapes de montagne, parce qu'il sait qu'il peut gagner une étape comme ça et se rapprocher au classement général. Et il n'est pas dans les plus dangereux parce qu'il perd beaucoup de temps au chrono. Oui, Charles?
Est-ce que vous êtes toujours avec nous? J'ai eu une micro-coupure sur l'enregistrement. Je voulais juste être sûr qu'on était toujours en direct. Faites-nous un signe hein, si jamais on n'est pas en direct. Désolé, Benjamin, je t'ai coupé, mais j'ai vu qu'il y
Pas
avait.
de problème. On va attendre peut-être la réponse du chat qui ne.
Oui, ça coupe un peu, ouais.
Oui, ça coupe un peu,
Micro-coupure.
micro-coupure, ok, pas de souci. Donc voilà, ouais, donc Guillaume Martin, je pense qu'il faut qu'il continue à être offensif, comme il l'est tout le temps, et pas en effet se cantonner à suivre les coureurs en espérant des défaillances pour monter au classement général. Et d'ailleurs, il sera peut-être accompagné cette année par un autre Français sur le Tour de France, c'est Fabien Doubet qui a passé un palier cette année, qui sent pas mal et qui en plus semble être aux côtes de Guillaume Martin, puisque c'est suite à la déchirure de la combinaison de Martin en chrono hier. C'est la combinaison de Doubet qu'il a eue, donc il grimpe pas trop mal Doubet. Si Martin a un souci avec un vélo, il peut prendre celui de son coéquipier. Donc à voir. Et parlons de notre Français qui a très bien marché cette année, Charles, c'est David Godu, puisqu'on n'a pas fait d'émission depuis quelques temps. David Godu qui fait un super tour de Romandie, C'était dimanche, lorsque ça attaque fortement chez les favoris, il est directement dans la roue de Alaphilippe et de Froome. David Godu, est-ce que c'est déjà plus qu'un lieutenant? Est-ce que on ne le verra que comme équipier dans le tour? Ou est-ce qu'il aura un peu cette double casquette, c'est-à-dire équipier dynamiteur pour Thibaut Pinot, mais également pouvoir se lancer dans ce groupe d'échappée, soit pour servir d'appui à Thibaut Pinot, soit pour jouer sa victoire d'étape? Toi, tu le vois comment pour cette année, David Godu?
Pour cette année, je le vois encore évoluer forcément dans l'ombre de Thibaut Pinot, mais pour la suite, je pense qu'il sera aussi bon. Enfin, on l'a vu hein, sur l'UAE Tour, c'était le seul à tenir la roue de Roglic sur des espèces de montées d'autoroute, là où c'est vraiment les watts qui font la différence. Je ne pensais pas que ce serait une montée pour lui, j'étais assez étonné. Au final, on l'attendait à la flèche et il a un peu déçu, alors que 3 jours après, il fait un super numéro lors de Liège-Bastogne-Liège, pareil sur le Tour de Romandie. Donc, ouais, une vraie classe pour moi chez David Godu. Je pense que on devrait le voir très très haut à partir de l'an prochain.
Peut-être même cette année, moi je pense. L'an dernier sur le Tour de France, il avait déjà fait quelques étapes dans le top 15, top 20 avec les favoris, notamment dans les Pyrénées. Et je me dis que cette année, on pourrait le voir même encore plus haut. On voit des Ineos, mis à part des équipiers être dans le top 20, certains top 10 derrière leur leader. Je pense que David Godu pourrait être très très haut cette année sur le Tour de France, parce que je pense qu'il va rester pas mal avec Thibaut Pinot. Après, on ne sait jamais, des fois, première attaque pour voir si les favoris suivent, et il part et il pourrait en gagner une belle dès à présent. Et maintenant, donc on a parlé un peu des World Tour, des Conti Pro, des Conti. Bon, on n'a pas parlé de tout le monde, hein. On aurait pu parler d'Élie Gébert ou de Quentin Jauregui qui font une belle saison, mais on a choisi, pour finir l'émission, de parler des néo-pros et des coureurs espoirs. Donc on va commencer tout simplement par les néo-pros. Charles, donc j'en ai choisi 4 pour parler de leur saison. Je vais commencer par Victor Laffey, et je commence par Victor Laffey tout simplement parce que c'est celui qu'on voit en ce moment, cette semaine. Pour ceux qui suivent le Tour de Hongrie, il est à l'attaque, on l'a vu aujourd'hui à l'attaque. Bon, normalement il a attaqué à un moment qui n'était pas favorable, et hier aussi il a fait augmenter le rythme du peloton dans la bosse qu'il y avait. Victor Laffey, Charles, on était inquiet au début de la saison, je ne sais pas si tu te souviens, beaucoup d'abandons. Il sortait d'un hiver marqué par une blessure. Il semble s'être vraiment remis sur les bons rails.
Ouais, Victor Laffey, il était passé pro le 1er août dernier, je crois, après une très belle, enfin deux très belles saisons chez les amateurs, enfin chez les espoirs. Et à vrai dire, ouais, comme tu l'as dit, on était assez inquiet quand même, parce qu'on sentait qu'il n'arrivait pas à passer ce cap. Et je trouve que ça a fait vraiment plaisir de le voir là, sur ce Tour de Hongrie. Bon, il attaquait un petit peu à des moments où on ne comprenait pas pourquoi, mais enfin, peut-être que je me trompe, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas le coureur, mais j'ai eu l'impression qu'il avait besoin de se rassurer, en fait, et juste qu'il se faisait plaisir, et que le fait d'être capable juste d'attaquer, parce que ce n'est pas arrivé souvent depuis qu'il est passé pro, malheureusement, et ben, ça lui faisait du bien, qu'il avait besoin de se mettre à l'avant, besoin de se montrer pour relancer un peu la machine, sûrement reprendre un peu de confiance. Et rien que pour ça, quand on voit un jeune coureur qui a vraiment galéré à ses débuts, le voir à l'avant, enfin, moi, ça m'a fait plaisir. Je me dis, bah, tiens, il doit être content parce qu'il est un peu sorti de la galère. Et ça lui fait du bien. Et même si ce n'est pas forcément toujours opportun, j'imagine que ça le fera emmagasiner des choses intéressantes dans le but de la suite. Parce que enfin, c'est quand même un mec qui fait top 10 sur la course de la paix, qui a gagné des étapes autour de Savoie-Mont-Blanc, si je ne me trompe pas. Donc,
c'est ça, ouais, il en avait gagné une.
Il a fait des très belles performances chez les jeunes. Donc, il y a un potentiel chez ce garçon, donc enfin, ça serait dommage que ce potentiel puisse pas être exploité quoi, chez les pros.
Tout à fait. On a commencé à le voir un peu à son avantage sur une échappée au Yorkshire. Puis il a fait une bonne montée du Grand Colombier autour de l'Ain. Là, il s'est monté en puissance. J'espère qu'on le verra sur une épreuve comme la route d'Occitanie, par exemple, où il y a une étape de montagne qui pourrait lui permettre de voir où c'est qu'il en est face au gratin du peloton mondial. Je pense notamment à Alejandro Valverde. Donc ça fait du bien, comme tu dis, de voir un coureur qui a galéré, qui remonte la pente et qui ne subit pas la course, qui l'a fait également. Pas forcément opportun, mais j'ai en tête notamment le passage chez les pros de Jérémy Maison qui a été très très compliqué. Et je vois que Victor Laffey ne semble pas prendre cette voie et c'est très bien. Le deuxième coureur néo-pro dont je voulais parler, c'est Rémi Rochas. Un peu même profil que Victor Laffey, donc c'est un grimpeur qu'on avait vu l'an dernier au Kazakhstan, où il avait fait un top 5. Et Rémi Rochas a été blessé, il commence à revenir. On l'a vu notamment autour de Turquie. Bon, il est loin, hein, Rochas, autour de Turquie, il n'est pas dans les 20 premiers, mais il monte en pression petit à petit autour de l'Ain. Bon, il est dans les 50 premiers. Autour du Luxembourg, il est à présent dans les 20. C'est un coureur qu'on ne connaît pas forcément, qui a beaucoup galéré à passer pro. Il devait passer pro quand l'armée de terre devait passer en continental pro, ça ne s'est pas fait, il s'est retrouvé sur le carreau, comme d'autres coureurs espoir également. Et il est engagé sur le Mont Ventoux dénivelé challenge, où il peut faire une place. Est-ce que tu le connais, toi, un peu ce coureur, Charles? Ou pas forcément.
Bah, je ne vais pas mentir, hein, à part de nom, enfin, je n'ai pas forcément d'informations, et à vrai dire, je ne me suis pas vraiment renseigné non plus, donc je ne vais pas faire celui qui maîtrise le sujet. Non, bah, juste que c'est un néo-pro, que j'ai vu qu'il avait été stagiaire chez AG2R La Mondiale dès 2016, quand il avait 20 ans. Et comme tu l'as dit, le Mont Ventoux, ça va être un beau test, parce que s'il a des capacités de grimpeur, ça va être une course de côte, je pense. Il n'y a que 84 coureurs au départ. Derrière Romain Bardet, il n'y a pas une très très grosse concurrence.
Ouais.
Donc à voir s'il a les jambes pour aller chercher un top 10 ou un top 15 sur ce genre d'épreuve.
C'est ça, ouais. Ouais, ce coureur, pour finir, me fait penser beaucoup à Romain Campistrou, qui a été pro une année chez l'Armée de Terre. C'est ce genre de coureur, on pense qu'il va passer pro, et puis les années passent et il ne passe pas. Donc c'est bien qu'il ait sa chance. Et j'espère qu'on le verra sur les épreuves vallonnées ou montagneuses françaises ou étrangères qui arrivent là. Cet été, ça serait bien de le voir à son avantage. Le troisième coureur, ça c'est un coureur par contre que tu connais, Charles. Je t'ai posé la question sur Rochas. Là, je te parlais d'un coureur qui est chez Total Direct Energy, qui est très jeune et qui est pétri de talent, c'est Mathieu Burgaudeau. Burgaudeau qui fait une saison, je ne sais pas comment la qualifier. Est-ce que toi qui l'as beaucoup suivi, Charles, tu trouves que sa saison est décevante ou au contraire, même s'il n'y a pas encore de résultats marquants, prometteuse? Notamment, on l'a vu dans plusieurs échappées.
Je pense que c'est surtout une saison d'apprentissage chez Mathieu Burgaudeau. Il est passé stagiaire très tôt, hein. Dès sa première année espoir à 19 ans, il était stagiaire chez Direct Energy, donc il a fallu un peu encaisser ça. Je pense qu'à la manière d'un Pavel Sivakov, tu vois, qui a toujours eu du mal sur ses premières années, où il a fallu apprendre, etc. Je pense que pour Mathieu Burgaudeau, ça va être une saison où, enfin, je ne vais pas dire qu'il va apprendre le métier, parce qu'il connaît forcément son métier et qu'il est sérieux, mais ça va être une saison qui va lui servir pour la suite, je pense. Il n'y a pas de performance transcendante. Hein. Quand on regarde sa fiche sur ProCyclingStat, il n'y a rien d'exceptionnel, mais il a fini ses courses, il y a très peu de DNF. Il a quand même fait des belles épreuves et donc je pense qu'il va prendre énormément de caisses cette année, qu'il faut qu'il continue à apprendre sans forcément se frustrer ou attendre des résultats, mais faire le taf et puis repartir l'an prochain avec une grosse préparation hivernale, une meilleure caisse et la visée des résultats, quoi.
J'ai vu que l'équipe l'avait engagé sur plusieurs épreuves belges. Pour ma part, je le voyais peut-être un peu plus puncher. Est-ce que ça pourrait être un Flandrien?
Moi, je pense que c'est plus un Flandrien après, mais il est encore jeune. Hein. Je pense que lui-même, il doit se découvrir un petit peu. Mais si je devais le classer, je dirais que c'est peut-être un peu plus un Flandrien qui a quand même des capacités de puncher.
Alors, le quatrième coureur dont je veux parler, c'est celui qui a fait les meilleures performances des quatre. Alors, c'est un néo-pro. On va voir si le chat trouve. Donc allez, essayez de dire un néo-pro qui a fait de meilleures performances que Laffey, Rochas ou Burgaudeau. Il a fait notamment un top 10 sur une Coupe de France dernièrement. C'est un grimpeur. Je vais sortir les indices petit à petit, mais je vois que ça ne participe pas, donc je vais vite arrêter ce jeu.
Moi, je n'ai pas trouvé.
Non, Madouas n'est pas néo-pro, Antoine. Madouas, il était pro l'an dernier.
Alors, quelle équipe? Faut que tu donnes des indices.
Il a un nom composé.
Paré peintre.
Voilà, tout à fait. Aurélien Paré-Peintre. Alors, Aurélien Paré-Peintre, c'est un coureur dont on entend parler depuis ses 19 ans, mais qui a eu un passage assez compliqué. Enfin, assez, non, un peu comme quand même Jeanne, il n'a pas passé ce palier chez les Espoirs jusqu'à l'an dernier, où là, il a refait les performances qu'on attendait de lui, avec notamment à la Ronde de l'Isard, ben, une deuxième place. Il manque la victoire d'étape de peu sur la dernière étape, 13e au championnat du monde espoir. Et même en tant que. Alors, je sais pas s'il avait signé le contrat ou s'il était stagiaire, je crois qu'il avait signé le contrat. Il fait quelques top 30 sur le tour de Guangxi, sur Paris-Bourges. Ce n'est pas des performances exceptionnelles, mais vous comprenez bien qu'un coureur comme ça n'était pas leader chez AG2R. Il était surtout équipier cette année. Eh bien, c'est pas mal. Hein. Ce qu'il a fait, on l'a vu à l'UAE Tour, 26e. Alors, 26e, on sait pas, on va pas non plus le porter en triomphe, mais au Tour de l'Ain, il finit 11e après s'être fait piéger sur la première étape. Enfin, il s'est pas fait piéger. Il a eu un problème mécanique qui a fait perdre du temps, sinon il faisait probablement dans les 5-6 premiers du Tour de l'Ain. Quatrième des Boucles de l'Aune, où il a également été équipier de Alexis Goujard. Aurélien Paré-Peintre, ben Charles, pour parler de comment son équipe lui fait confiance, c'est que tout simplement il sera au départ du prochain Tour de Suisse, ce qui montre quand même pour un jeune coureur qu'on attend de lui.
Aurélien Paré-Peintre, je sais pas vraiment quoi en penser. À vrai dire, c'est un coureur que j'ai interviewé quand il était encore au junior, enfin c'était déjà il y a quelques années dans nos séries de champions de demain. Je trouvais très très bon chez les juniors. Je trouve qu'il a fait une année E1 assez exceptionnelle où je crois qu'il de mémoire il fait 6 de la Ronde de l'Isard, il doit faire 4 du Crès-Brez. Il y a pas mal de grosses perfs, mais on en a déjà parlé pas mal tous les deux à vrai dire de ce coureur-là. Mais en termes de résultats, en tout cas brut. J'ai pas senti de progression en fait entre son année E1 et son année E4. Et
Je dirais
je le vois
E3,
pas ce palier
E4,
franchi.
il
Et ça c'est dommage parce que là justement c'est cette année d'ailleurs son année E4, mais je sens pas la progression en fait. Et j'ai du mal à l'envisager faire la carrière qui semblait lui être promise quand il est passé dans les rangs espoirs, quoi.
Après, peut-être c'est un coureur, tu vois, où le monde professionnel lui plaira plus que les courses amateurs. Il y a de ces coureurs, tu vois, qui ont du mal à passer le palier, et une fois qu'ils sont pros, arrivent à encaisser les charges d'entraînement et progressent. Alors, Antoine demande s'il a fait des études, je ne sais absolument pas.
Oui, après, c'est une possibilité aussi. Hein. D'ailleurs, ça a été signalé, son frère est très fort. Il a
Oui,
gagné Valentin Paré-Peintre, la classique des Alpes, il y a quelques jours.
junior, ouais. Je compte en parler quand on parlerait des espoirs, même si c'est un junior. Mais ouais, Aurélien Paré-Peintre, je pense qu'il peut vraiment. Je pense qu'il va reprendre sa progression. Bon, après, je ne suis pas très objectif. C'est un gars que je suis depuis tellement longtemps que je suis un peu fanboy. Donc on va voir. Mais je crois qu'il peut surprendre. Pour le moment, il est surtout utilisé comme équipier. Parce que bah, AG2R, c'est quand même une équipe. Qui est axé sur les classements généraux. Là, ben, autour de lui, il sera probablement équipier de Mathias Franck. Mais la chance qu'il a, c'est également qu'il va pouvoir, entre guillemets, jouer le général un peu, puisque AG2R aime Charles jouer les classements par équipe. Et du coup, ben, il faut qu'il y ait toujours trois coureurs qui fassent des tonnes sur les étapes.
Bah ouais, après avoir, il est dans un registre qui n'est pas facile, celui de grimpeur. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a beaucoup de coureurs de sa génération, parce qu'il est quand même de 96, qui ne lui sont pas quand même passés devant et qui ont déjà un solide palmarès. Bon, je ne vais pas citer Egan Bernal, parce que ce serait un peu, enfin, ce serait pas enfin, la meilleure chose à faire, parce qu'il est assez exceptionnel. Mais il y a beaucoup de coureurs, déjà même de 97, 98, qui sont déjà. Au-dessus de lui, en fait, et des coureurs qu'Aurélien dominait dans les catégories de jeunes ou dans les catégories juniors, quoi. Et tu vois, Pavel Sivakov, par exemple, est de 97. Les gars comme Leknessoun, comme Bagioli, etc., sont 98, voire 99, et ils sont déjà passés devant, en fait, et ça, c'est plutôt inquiétant, je trouve. Enfin,
À moins qu'il ait une maturité plus tardive, ce qui peut arriver également avec une progression constante, même à un âge un peu plus avancé. À voir. Mais je comprends tes doutes. Bon, moi, je vais rester plein d'espérance. Mais on verra. Donc, on a fait le tour des quatre néo-pros dont je voulais parler. Et on va revenir sur des coureurs dont on a déjà parlé à cette émission. Quand on parle des coureurs espoirs, comme tu as dit, les champions de demain. Ben forcément, moi, il y a deux coureurs espoirs français dont j'ai envie de parler, Charles. Je pense que tu vois de qui je veux parler. Un duo de chez Chambéry.
Ouais, Clément Champoussin et Nicolas Prodhomme.
Ouais, c'est vraiment des coureurs. Ben, déjà, j'espère les voir pro dès l'an prochain. Parce que quand je vois les performances de l'un et de l'autre, je me dis qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à les faire continuer en amateur. Là, ils vont être sur le Tour de Savoie Mont-Blanc tous les deux. Donc Nicolas Prodhomme, c'est plus un coureur, c'est peut-être plus complet que Champoussin, plus puncher, mais qui est grimpeur parce qu'il a gagné une épreuve très relevée en Italie l'an dernier. Il a également gagné la Orlen, je crois que ça s'appelle.
Ouais,
C'est une
la
course.
nouvelle épreuve d'un jour qui fait partie de la Coupe des Nations Espoir.
Alors, non, c'est en 2 jours.
Ah, c'est en 2 jours,
Il y a
pardon.
un contre-la-montre que les
Exactement.
Français ont pulvérisé, c'est un contre-la-montre par équipe, et ils gagnent parce que ben, Clément Champoussin a un problème mécanique à 6 km de l'arrivée. Champoussin remonte quasiment tous les coureurs, mais échoue derrière le groupe de 10 qui s'est dégagé. C'est donc Prodhomme qui l'emporte entre guillemets par défaut. Champoussin qui fait un très très bon mois. Puisqu'il est dans les premiers à la Ronde de l'Isard, à l'Orlen et à la course de la paix également. Mais comme dit Max, Champoussin a par contre beaucoup de mal à la mettre au fond. C'est vrai que pour le moment, le pauvre, chaque fois il y a un coureur et puis un autre qui lui passe devant, c'est jamais le même, mais il n'arrive pas à lever les bras.
Bah, faut dire qu'il est tombé aussi cette année 2 fois sur des cracks lors de la Ronde de l'Isard, si je ne me trompe pas. C'était Baggioli et Lecnessun qui font un numéro sur chacune des étapes, enfin surtout Baggioli d'ailleurs, sur la course de la paix qui était la deuxième grosse épreuve par étape qui s'est disputée le mois dernier. Pareil, il est dominé cette fois-ci bah, juste par Lecnessun et c'était Bisseguer qui fait deux. Donc, ouais, malheureusement, il est toujours tombé sur plus fort que lui, mais j'ai bon espoir. Tu en parlais de Paris-Épargne tout à l'heure. Je pense que Clément Champoussin est déjà au-dessus, tu vois. Alors que pourtant, il a 2 ans de moins. Enfin.
Et alors, surtout ce qui est très intéressant pour Champoussin, c'est que il est arrivé sur le vélo sur route très tard. C'est un coureur qui vient du VTT et qui avait peu d'expérience sur la route. Je lisais surtout ça en 2018, où on racontait qu'il avait encore beaucoup à progresser sur la science de la course. Donc vraiment, c'est un coureur qui est loin d'être. Comment dire? Il y a des coureurs quand ils sont espoirs qui passent pro d'ailleurs, mais on dit déjà eux, ça fait depuis les cadets qu'ils sont pro. C'est des coureurs qui ont un plan d'entraînement, qui ont un diététicien, etc. Et du coup, quand ils arrivent pro, ben, ils n'ont pas tant de marge
Oui,
de
c'est
progression
exactement.
parce qu'ils sont déjà au top. C'est des coureurs qui stagnent dans le niveau, quoi. Par exemple, il y a des Colombiens, ils arrivent très fort chez les pros, mais ils restent au même niveau. Ils ne progressent pas. Donc j'attends vraiment de voir Champoussin. Ça m'intéresse de voir jusqu'où il peut aller. Moi, j'aime beaucoup les grimpeurs. C'est un coureur que j'espère voir à l'avant et chez G2R dès l'an prochain.
Mais tu vois, ce qui m'embête, moi, enfin, après, je ne sais pas s'il y a des contraintes en termes de calendrier. On sait que Chambéry, quand même, le Tour de Savoie, c'est difficilement loupable que pour le club. Mais
Ouais.
j'aurais aimé voir Champoussin et Prodhomme et bah, le
Sur le
club de
Giro 23?
Chambéry sur le Giro U23. Tu vas se mêler à la lutte avec forcément les meilleurs, enfin quasiment tous les meilleurs, parce qu'il va juste manquer Lecnessun, si je ne me trompe pas. Coureur espoir, il y aura les Colombiens, il y aura un peu tout le monde, et du coup, enfin, c'est un peu dommage de ne pas voir une petite bataille justement et voir où ils se situent, surtout qu'ils connaissent les routes italiennes, parce que tu l'as très bien dit, Benjamin, ils ont fait la Ruta d'Oro, je le prononce mal, ils ont fait le Piccolo Lombardia l'an passé, enfin, c'est des terrains qu'ils maîtrisent, parce que Chambéry a vraiment l'habitude de traverser les Alpes et d'aller batailler en Italie, et c'est dommage de pas les voir cette année, je trouve.
Ouais, alors heureusement, je me dis, c'est le Tour du Pays de Savoie qui est une super épreuve, très très dure, également. J'aurais été plus déçu si ça avait été une course sans vouloir la critiquer. Par exemple, la Ronde de l'Oise, où c'est
Ouais.
des.
Mais je pense que pour les
C'est pour un
sponsors, peut-être
butcher,
qu'ils peuvent
mais.
pas se permettre de louper aussi le Tour de Savoie, Chambéry, c'est, enfin, ça serait largement compréhensible aussi, hein, mais
Mais ça fait râler. Ça
juste
fait
d'un point de vue de
râler. Et...
suiveur qui a
Ouais.
pas d'obligation.
Et ça, en fait, ça fait râler à double titre parce que c'est dommage également que ces deux épreuves se passent en même temps. Et du coup, j'espère vraiment que Chambéry sera sur le Val Aoste.
Ouais, moi aussi, parce que c'est vraiment une belle épreuve aussi. Tiens, je suis en train de lire le chat, je vois qu'on me pose une question, un mot sur Adrien Guillonnet qu'on a interviewé d'ailleurs, qu'on a la chance d'avoir, qui nous fait des beaux récits depuis le début de l'année. Avec Benjamin, justement, on va essayer de le convaincre. Enfin, je suis en train d'essayer de le convaincre de venir participer avec nous à une émission. Il m'a dit qu'il en écouterait. Donc si jamais il écoute ce soir, Adrien, bah écoute, t'es le bienvenu, tu vois, ça se passe tranquillement. Donc.
J'espère qu'il est pas pote avec Fournier. Sinon, c'est foutu.
Ça devrait bien se
Oui.
passer, mais ouais, on aimerait bien avoir Adrien, comme on fait un focus sur lui cette année, on aimerait bien l'avoir sur une émission. C'est un
Ça,
coureur super intéressant, un mec qui est vraiment sympa et qui a beaucoup de choses très très intéressantes à dire, que ce soit sur le vélo ou sur d'autres sujets comme.
et qu'on va pouvoir suivre sur deux épreuves télévisées, Charles, ce qui est rare
Ouais.
pour cette équipe. C'est le Mont Ventoux dénivelé challenge, comme je l'ai
Adrien sera
dit.
sur le Mont Ventoux, il sera pas leader, mais
Bon, après, ça va se jouer sur le Ventoux. Donc, s'il
parce
est
qu'il y aura
bien, il
un rôle
y a Aguirre, c'est
de
ça le
protection
leader?
pour Hernan Aguirre, ouais, m'a dit le manager de l'équipe aujourd'hui. Donc il aura un rôle quand même protégé, mais il sera pas leader. Mais après, vu le plateau, il peut très bien faire. Hein, il sort d'un top 10 sur le Tour du Japon, où justement il a dû seconder Aguirre qui avait malheureusement chuté. Et on verra aussi Adrien sur la route du Sud
Route
bientôt. Et
d'Occitanie, monsieur.
route d'Occitanie, pardon, je fais erreur
Route du Royaume Chocolatine.
à chaque fois. Et bah ouais, là aussi, bah moi j'espère, hein, désolé, je suis pas du tout objectif, j'espère qu'on m'en vendra pas, mais j'espère qu'il fera une belle performance parce que c'est un coureur, enfin un mec que j'apprécie beaucoup.
Voilà. Et alors, je vais rebondir sur une question d'Antoine qui disait, puisqu'on parlait du VTT, si on avait des cyclocrossmen en France qui peuvent cartonner. Et justement, cette semaine, on a appris une information. C'est que le jeune Antoine, alors je sais pas comment on prononce son nom de famille, Antoine Benoist, je sais pas si on prononce le S ou pas,
Benoît, je pense, je sais pas, ouais.
qui va passer professionnel chez Corredon Circus à partir du 1er septembre pour le cyclocross, mais également pour la route. C'est un coureur qui, je crois, faisait partie de l'équipe. Je suis pas trop le cyclocross, hein, donc je
L'équipe de
dis
Steve
peut-être des
Chenel, je
conneries.
crois. Moi
Voilà,
non plus, hein,
c'est ça, c'est ce que je pense. Après, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je sais qu'il a fait dans les 20 premiers du Paris-Roubaix Espoir. Mais voilà, les performances de Van Aert et de Van den Poel servent également ce coureur, puisque ça encourage peut-être l'équipe à aller chercher encore plus dans le cyclocross. Du coup, voilà, on va voir ce que fait ce coureur. On rappelle quand même qu'on a eu de très bons cyclocrossmen français ces dernières années
à
qui ont
Clément
joué des classes.
Venturini, ouais, déjà ça.
Venturini qui est toujours. Sinon, on a John Gadret qui a fait podium sur le Giro. Francis Mouret, alors il n'a pas fait de podium sur le Giro, je crois qu'il a fait un top 20 ou top 25. Arnaud Janesson qui avait été très fort sur le Tour de France 2011 notamment. Donc voilà, on va voir s'il s'inscrit dans cette lignée. Mais il y en a plusieurs quand même, coureurs de cyclocross. Il y a Quentin Jauregui également. Je pense que...
De mémoire, vraiment, parce que moi je suis pas du tout, enfin vraiment pas beaucoup le cyclocross, mais je crois qu'il est champion de France Espoir et je crois qu'il a gagné toutes les épreuves de Coupe de France dans la catégorie Espoir cet hiver, donc c'est un gros gros talent. Et après, bon, c'est ni Van Der Poel ni Van Aert, mais pourquoi pas le voir progresser chez Corendon Circus, qui est une belle structure justement pour les crossman et qui pourrait aussi l'aider à progresser sur la route. Comme ils l'ont fait justement avec le Mathieu Van Der Poel.
En tout cas, cette exposition phénoménale pour le cyclocross par les deux leaders qui n'en finissent plus d'étonner, ça va peut-être aider au développement également en France du cyclocross, puisque Van der Poel, forcément le petit-fils de Raymond Poulidor, ben, ça parle. Van Aert gagne sur le Dauphiné, qui est une épreuve française, on l'a vu sur Paris-Roubaix également. Donc j'espère que ça va permettre de développer le cyclocross. Alors, ce n'est pas forcément la discipline que je suis à fond, mais. Égoïstement, j'espère que ça fera des bons coureurs sur route
voilà,
plus
c'est
tard
pareil.
ensuite. Donc voilà. Mais c'est pareil pour le VTT ou quoi. Hein, on
Ah oui, pas
espère.
de jaloux, moi, c'est
Voilà.
juste la route, hein, le reste.
La piste également. Hein, j'espère. Notamment après les JO de 2020. Peut-être qu'il y aura jusqu'en 2024. Voir Benjamin Thomas se consacrer à la route pour voir ce qu'il peut faire. Ça marche chez les Anglais, pourquoi pas chez nous. Et ça me fait râler également quand je vois comment ça performe les meilleurs des autres disciplines sur la route. Je me dis putain, Absalon. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait donné, mais il aurait pu faire un super leader français à une époque où on en avait vraiment besoin. Surtout quand on voit ce que faisait Jean-Christophe Féraud, qui était quand même un tour en dessous d'Absalon.
Mais tu ne t'intéresses pas au cyclisme artistique, Benjamin. T'as pas vu ça? Au
Au
cycleball,
cyclisme.
ça. Le cycleball, on vous fera, ou, peut-être, non, enfin, je rigole, mais t'as jamais vu ça, le cyclisme en salle, il y a plein de disciplines. Alors, c'est magique,
Ah,
hein.
qui joue au ballon là, mettant des coups de roue pour faire avancer le ballon.
Pour ceux qui sont intrigués par ce genre de choses, allez faire un tour sur le site de l'UCI. Il y a une catégorie cyclisme en salle. Alors, il y a du cyclisme artistique, je crois, un peu en mode patinage artistique ou natation
Bon,
synchronisée,
après,
vous faire des figures, il y a des matchs de foot sur des vélos, enfin c'est...
je crois qu'ils vont le mettre dans les Hammer Series bientôt.
Ouais, voilà ça. Mais ça peut, pourquoi pas, hein, ça peut, si vous êtes curieux, allez faire un tour sur le site de l'UCI et catégorie cyclisme en salle et vous verrez qu'il y a plein de disciplines en fait qu'on ne soupçonne même pas, c'est assez rigolo.
Bon, vu qu'on est en train de dire n'importe où,
Tu t'y attendais
on
pas à
va
celle-là.
s'arrêter là. Ah, non, je m'y attendais pas. On va parler. Non, il n'y aura pas de podcast consacré aux Hammer
Non, parce
Series.
que
Allez,
Javert a dit
si.
que c'était de la merde, donc
Promets.
du coup on était prêt à le faire,
Ouais,
mais comme on veut pas
ouais.
le fâcher.
Allez, je promets qu'il y aura un podcast consacré aux Hammer Series si un Français gagne le Tour de France cette année. Et je serais donc ravi de faire cette émission. Vraiment.
D'ailleurs, si
On est
quelqu'un a
d'accord,
compris
Charles?
comment ça marchait les Hammer Series, on est preneur.
Et voilà, donc le prochain coin Cocorico, ben, on le fera un peu avant le Tour de France. Ça sera consacré. Bon, on parlera forcément sans doute de performance sur le Dauphiné et le Tour de Suisse. Bon, je pense qu'on en aura parlé dans les émissions comme la sortie du Vinimar. Mais surtout, ça sera pour parler des coureurs qui font le Tour de France. Parce qu'au-delà des grands leaders, voir qui peut faire tout ça. Bref, on vous dit à la prochaine fois. Faites attention à la Team Omerta, rôde sur Twitter. Continuez à avoir le sourire. Dites bien ce que vous
Elle est en
pensez.
forme en ce
Ne les
moment,
écoutez
donc
pas.
préparez-vous.
Elle reprend du poil de la bête. Bonne soirée tout le monde. Portez-vous bien et à dimanche pour la sortie du
À
dimanche.
dimanche, bonne soirée à
Ciao, ciao.
tous.